R22,
tout monde,
antenne, radio, bois.
Festival Poétesse.
Qu'est-ce qu'une femme poète ?
Histoire, création,
politique.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue par cette troisième et dernière journée du colloque Poétesse, qu'est-ce qu'une femme poète ? Histoire, création, politique. Après donc deux jours d'échanges particulièrement riches, qui ont été énormément suivis sur YouTube et les réseaux sociaux, nous sommes très heureuses de vous retrouver et souhaitons la bienvenue donc à celles et ceux qui nous rejoignent. Comme le programme est chargé et qu'aujourd'hui nous allons essayer de ménager des pauses de plus de 3 minutes, je vous propose donc d'enchaîner directement avec la troisième keynote. Après Marilyn Hacker et Karit Kanahir, après la belle présentation de Luisa Ballesteros Rosas hier, nous sommes absolument ravis de retrouver à nos côtés aujourd'hui la poète, ou plutôt poétesse d'ailleurs, je crois que c'est le mot qu'elle utilise, Kiemis. Bienvenue Kiemis, et je laisse Mathilde faire la présentation.
Kiemis est une autrice, poétesse, afroféministe et conférencière. Elle travaille sur la question de l'amour de soi, du body positive et sur la question de la place des afro-descendantes dans les espaces européens. Elle a écrit de nombreux articles dans des revues, Deuxième Page, Simonae, des sites d'information comme Slate et BuzzFeed sur les questions féministes et de body positive. Elle veut véhiculer son message d'émancipation des normes et d'épanouissement des femmes. Et pour ce faire, elle a participé à des conférences en France, à l'UNS, à Sciences Po et à l'étranger, à l'Institute of Radical Arts à Londres et à l'Université d'Édimbourg. Elle organise des ateliers d'écriture très récemment au pavillon des Canaux. Enfin, le plus récent, je veux dire, de ces ateliers d'écriture avait eu lieu au pavillon des Canaux. Elle a publié en mars 2018 son premier recueil de poésie, « À nos humanités révoltées » aux éditions Métagraphe, republié depuis aux éditions Premier Matin de novembre. Elle a participé aussi très récemment à des ouvrages collectifs qui sont parus il y a peu. L'ouvrage collectif « Sororité » qui a été dirigé par Chloé Delhomme et l'ouvrage collectif également « Comment lutter contre le sexisme » publié aux éditions Librio. Et je lui laisse la parole pour sa keynote et nous aurons ensuite jusqu'à 9h45 pour un temps d'échange.
Bonjour à toutes. Je vais d'abord commencer par vous remercier. Merci Mathilde pour cette petite présentation et merci à toute l'équipe du colloque Qu'est-ce qu'être une femme poète pour cette très belle invitation. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Avant de commencer ma keynote, je vais vous lire un petit poème. Que j'ai composé juste après avoir entendu en fait cette proposition, composé aussi, il faut le dire, après avoir entendu la brillante Isette Lombé lors d'une intervention. Et ce poème, je pense, va situer un peu mon idée. Vis-à-vis de cette question de qu'est-ce qu'être une femme poète, qu'est-ce qu'être une poétesse. Alors, je vais le réciter et puis je reviens parmi vous. Poétesse interrompue. 5h du matin. La poétesse se lève. 5h45. La poétesse se rendort dans un siège abandonné de la ligne 5. 6h30. La poétesse est à son poste. À ses côtés, des actrices, des autrices, des écrivaines, des chanteuses, des danseuses, des compositrices, des griottes, des conteuses, des réalisatrices, des peintres, des philosophes, des rêveuses, des penseuses, toutes engoncées, toutes oubliées, derrière leurs uniformes de femmes de chambre. 16h30. La poétesse sort de l'Ibis Hôtel. Elle croise à peine le regard de l'écrivain avec un grand E, le poète avec un grand P, l'artiste qui étale son énorme ego capital sur la terrasse de café du 17e arrondissement. Vite choper le RER, blinder le RER. Il faut rentrer, préparer, animer le foyer. La poétesse rêve de silence, de temps, de tranquillité, d'espace pour attraper ses vers, les nettoyer, ses mots, les dépoussiérer, les faire briller, mais ses rêveries sont embrumées par les produits d'entretien. 19h30. La poétesse vient de faire le dîner. Dans sa tête, les langues aimeraient valser, les phrases veulent exploser. Pourtant, ses doigts, fatigués de s'agiter, se murent dans le silence. Merci de m'avoir écouté. Pour tout vous avouer, hein, je vais vous dire la vérité, j'ai été partagée par plusieurs sentiments à l'idée de participer à cette keynote. J'ai été d'abord enchantée, très flattée, et puis arrivée devant l'écran, en fait, en la préparant, je me suis retrouvée totalement désemparée. C'est un sentiment de désemparement que je ressens assez souvent, malgré le fait que je participe à beaucoup d'événements scientifiques, enfin, à certains événements scientifiques, parce que les mots de keynote, de conférence universitaire sont toujours, ont toujours un effet très fort sur ma personne. On parle beaucoup de syndrome de l'impostrice ou de l'imposteur. La réalité, c'est que c'est un peu l'intériorisation de l'idée que je fais pas, j'ai pas l'impression de faire partie de ce milieu qui me tétanise. Le sentiment de l'impostrice, le sentiment de délégitimation, appelons comme on veut, hein, est un compagnon de route qui est très présent, qui est lancé à la trace comme un ex-chasseur. Il vous suit, il colle à votre ombre et il pèse sur votre gorge malgré toutes vos tentatives pour lui échapper. Et j'ai essayé de chercher plusieurs tentatives pour lui échapper. J'ai essayé de trouver plusieurs portes de sortie. L'une des portes de sortie face à ce sentiment d'inadéquation, ce sentiment de délégitimation, c'était d'aller finalement chercher des poétesses ou des chercheuses qui me ressemblent. C'est l'absence d'image qui pouvait me faire penser que ma place n'avait pas à être discutée, à participer, à construire ce sentiment de délégitimation. J'ai eu la chance pourtant de rencontrer, il y a quelques années, les travaux d'une autrice, d'une poétesse et d'une militante. Et je pense que les trois sont importants pour expliquer mon rapport à la poésie, qui m'ont permis de faire taire un petit peu ce sentiment de délégitimation, de le fuir et de le semer un petit peu de temps en temps. L'une de ces autrices, c'est Audrey Lorde, Audrey Lorde, je ne sais pas comment chacun prononce comme il veut. Et c'est pas seulement la rencontre finalement avec son travail directement de poétesse, mais ses essais, notamment l'un qui part de la poésie comme n'étant pas un luxe, que j'ai d'ailleurs retrouvé ces derniers mois lors d'une présentation, qui m'ont effectivement ancrée dans ma pratique de la poésie. Il faut peut-être commencer par là. Il faut peut-être commencer par comment moi, en fait, j'ai considéré la poésie depuis que je suis petite. Dans ma famille, la question de l'écriture est à la fois valorisée, parce qu'être écrivain, c'est quelqu'un qui, semble-t-il, fait preuve d'intelligence. Pour être écrivain, il faut, en tout cas dans ma famille, avoir fait des recherches. Donc c'est quelque chose qui est valorisé, mais qui, soyons honnêtes, n'est pas considéré comme un métier, une carrière qui est vue comme étant viable. Et comment les blâmer ? Personne ne devient écrivain pour devenir milliardaire, et la question, ou même millionnaire, et la question de suivre une carrière dans ma famille repose énormément sur la question de la sécurité. Être poétesse, être une femme poétesse, c'est, c'est à mon sens, au vu de la situation, c'est considérer que la question de la sécurité, elle n'est pas sinon accessoire, elle est bon, pas constitutive de ce qu'on veut faire dans notre vie, en fait. Et c'est la réalité. Mon expérience de poétesse, ce n'est pas une expérience de sécurité, disons, matérielle. Et pourtant, en rencontrant... Enfin, dans ce contexte-là, je vais commencer par là, dans ce contexte-là, dire qu'on est poétesse, c'est quelque chose qui est vu, du moins dans mon cercle familial, comme amusant, intéressant, mais pas forcément glorifiant, pas forcément considéré comme autre chose qu'un hobby. Et c'est vrai qu'en rencontrant le texte d'Audre Lorde, qui explique que la poésie n'est pas un luxe, est arrivé chez moi une sensation, une impression de, à la fois de légitimation, parce que je rencontre cette autrice qui se dit que son texte, finalement, lui permet de mettre en lumière le monde qu'elle aimerait voir advenir. Et en tant que militante, cette justification me paraît essentielle, et ça, je vais en parler un peu plus tard, mais aussi qui me permet de me dire, je peux me dire poétesse, et mes poèmes ne sont pas tous destinés à être cachés dans des cahiers, loin du regard des autres, loin du regard des autres et loin presque de mon propre regard. Parce que, effectivement, quand on est dans un contexte où on considère la poésie comme un hobby, et comme un hobby un petit peu, disons-le, un petit peu luxueux, un hobby qui est réservé à une catégorie d'individus qui n'a pas à se préoccuper des questions de sécurité matérielle, rencontrer une autrice comme Audre Lorde, c'est, en tout cas pour moi, c'est rencontrer pas une mentor, mais un modèle lointain, mais réel, qui dit ce que tu as à dire a de l'importance, et la manière dont tu choisis de l'exprimer, via la poésie notamment, est tout aussi important. C'est pas un caprice. C'est pas un caprice personnel. C'est essentiel. Je trouve que cette question du caprice, enfin du caprice, du bien, de la question du luxe, en fait, finalement, et comment Audre Lorde, et ce qui m'a inspiré chez Audre Lorde, comment dire, cette question a été encore plus saillante ces derniers mois. Parce que la plupart des créateurs et des créatrices, et des auteurs et des autrices, ont été un peu rangés dans la case non essentielle. J'imagine que de nombreuses personnes, en fait, ont traversé ce moment où, finalement, ce qui est le plus important, c'est ne pas travailler. La culture est vue comme un bien qui est non essentiel. Et si c'est non essentiel, est-ce que ça veut dire que ceux qui la pratiquent, celles et ceux qui la pratiquent, celles et ceux qui la bouffent, celles et ceux qui la vendent et celles et ceux qui la lisent, est-ce que ça veut dire que, finalement, est-ce que c'est un caprice? Est-ce que la poésie, en plus, un genre qui est encore moins considéré, je pense, dans le monde de la littérature, en tout cas, de ce que j'ai pu constater de mes échanges avec ce monde, est-ce que ça veut dire que il faut abandonner. Est-ce que ça veut dire justement qu'il faut choisir finalement de s'en détourner parce que, et se rapprocher de quelque chose qui est plus essentiel? Moi, évidemment, je vous dirais que non. Mais c'est aussi parce que pour moi, la poésie, à travers ce genre, c'est un genre qui peut être, en fonction de comment on l'habite, et moi, je choisis de l'habiter de cette manière-là, un espace de révolte. Je ne suis pas forcément dans l'idée que... voilà, il faut qu'il y ait une élite engagée, une élite, voilà. Je ne crois pas forcément à ce mythe, en fait, de l'élite culturelle qui a avancé, etc. Mais par contre, je crois à la puissance de la poésie. Je crois en la puissance de la poésie de révolte. La poésie qui est diverse. La poésie qui est engagée. La poésie qui est sociale, comme dirait Lisette Plombé dans une interview que j'ai beaucoup aimée, la poésie sociale. Je crois en une poésie qui est un peu pyromane. Je crois en une poésie qui est un peu pyromane. Je crois en une poésie qui, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon premier recueil, une poésie pyromane parce que elle embrase nos imaginaires. En fait, c'est ça, elle embrase nos imaginaires, finalement. Elle embrase, elle questionne, elle dérange, elle gratte. Elle pique. Je crois en cette poésie-là et je pense que justement dans une période où il y a eu une très forte incitation à penser le monde en catégories non essentielles et catégories essentielles, le fait que justement la poésie, je pense l'art en général et la poésie en particulier a été rangée dans une catégorie comme étant non essentiel, ça veut dire énormément de choses. Parce que ça veut aussi dire que tout ce qui rapporte pas, entre guillemets, tout ce qui rapporte pas au capital, tout ce qui est considéré comme sans valeur. Mais ça veut dire aussi qu'on peut réfléchir justement à cette question du sans valeur. Moi, je considère que la poésie, c'est, comme je vous dis, c'est un espace... de révolte, de questionnement. J'irai même plus loin, à l'inverse des essais, ou peut-être pas à l'inverse des essais, mais de manière différente des essais, la poésie permet une plus vaste liberté. Parce que la poésie, c'est subversif, parce que la poésie, parfois, c'est, en tout cas, la manière dont je comprends, c'est que, justement, on n'est pas obligé de tout comprendre, ça permet une plus vaste liberté dans nos manières de réfléchir nos mondes et nos manières de repenser nos mondes. Je le disais, la poésie, l'espace de la poésie, pour moi, me paraissait plus adéquat parce que, à mon sens, le genre poétique accepte l'anomalie. Il accepte, dans la forme, et évidemment dans le fond, il accepte le fait de, plus facilement, à mon sens, de briser les normes. Il accepte, le genre poétique accepte de prendre des détours plus facilement que dans un essai sociologique ou dans une recherche, à mon sens, du moins. La poésie, le genre poétique accepte le vide, accepte ses trous un petit peu. Et c'est pour ça que... Au grand étonnement de nombre de gens de ma famille, j'ai pas décidé d'écrire un essai, et ça m'a été questionné à de nombreuses reprises. Ah, dis donc, pourquoi t'as choisi un recueil de poésie? Je pensais que t'allais écrire un essai politique, etc., etc. Ça tombait sous le sens, finalement, de choisir la poésie, parce que, comme le dit très bien Audrey Lorde, je trouve que le genre poétique accepte beaucoup plus facilement l'émotion et la sublimation de ces émotions et la sublimation de cette colère et de cette rage. qui m'a habité. Pour revenir un petit peu sur À nos humanités révoltées, qui est du coup mon premier essai, bon, je n'ai pas fait de petite couverture, mais voilà. À nos humanités révoltées, il est né un petit peu de cette rencontre avec Audrey Lorde, un petit peu, d'ailleurs un petit peu, enfin il y avait aussi Maya Angelou, mais c'était surtout Audrey Lorde, puisqu'à l'époque, il faut bien le noter, j'étais plus... J'ai rencontré plus facilement les autrices noires américaines. Et ça, je pourrais vraiment faire un... je pense que je pourrais faire toute une partie sur la question de qu'est-ce que c'est en tant que femme noire française et francophone de rencontrer plus facilement les poésies noires américaines et de se voir plus facilement dans les poétesses noires américaines. Voilà, bon, ça, c'est quelque chose que j'essaye de justement changer, mais... Bon, À nos humanités révoltées, c'était cette rencontre-là. Dans le travail d'À nos humanités révoltées, l'idée... déjà, bon, soyons honnêtes. À nos humanités révoltées, c'est un recueil de catharsis. C'est un recueil de catharsis. C'est un recueil qui a été créé parce que je bouillonnais de rage. Je bouillonnais de colère, une colère qui était légitime. Et comme je le disais tout à l'heure, je veux dire, qu'est-ce qui n'est pas le plus adéquat que la poésie pour raconter sa colère ? Je vois pas ce que, je trouve que c'est l'un des genres les plus adéquats. De toute façon, c'est le genre qui me paraissait le plus évident à l'époque et je pense qu'il me paraîtrait le plus évident. Donc la construction d'À nos humanités révoltées, c'est finalement un petit peu l'aboutissement d'années de recherche entre guillemets universitaire, même si c'était pas dans le cadre universitaire, mais de lecture universitaire très intense sur le rôle la place des femmes noires dans les espaces européens, dans les espaces atlantiques. C'était aussi l'aboutissement d'un militantisme naissant et c'était l'aboutissement d'une rencontre littéraire avec comme je le disais, avec Audrey Lorde et Maya Angelou. Ce qui me paraissait essentiel à l'époque, c'était, je vais peut-être mettre la couverture, c'était de mettre en... Ça fait un peu promo, mais c'est pas... c'était de proposer un recueil de poésie à destination... Alors, je ne le pensais pas comme ça au début, mais ça a été très important pour moi à ce moment-là. C'était de proposer un recueil de poésie à destination des gens qui me disent « Je n'aime pas la poésie, mais... mais ça, j'ai aimé. » C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai énormément entendu puisque les personnes, je pense, qui ont acheté le recueil, une partie des personnes qui ont tout d'abord acheté le recueil de poésie, c'était quand même des personnes qui s'intéressaient à la question afroféministe, puisque je suis afroféministe, en tout cas je me reconnais dans les idéaux afroféministes, on va dire comme ça. Et donc du coup lors d'ateliers, de rencontres à la sortie du livre, c'est un retour que j'ai eu et c'est un retour qui m'a énormément satisfait. Pourquoi ? Parce que quand j'ai écrit ce recueil, l'idée c'était de, comme je le disais tout à l'heure, de sortir cette rage, de proposer un contenu qui matérialise cette colère, cette rage. Et je parle de colère et de rage, c'est vraiment aussi, c'est lié, hein. C'est une envie d'autre chose. C'était ça en fait l'idée, c'était de matérialiser cette envie d'autre chose. C'était aussi de proposer un livre qui parle d'une rage qui, je pense, qui n'est pas personnelle, qui n'est pas juste personnelle. Une rage qui, ou une colère qui... une rage finalement que j'entendais autour de moi, tout simplement, une rage que je partageais avec d'autres. L'autre idée, c'était, je me souviens très bien que au moment de cette écriture-là, j'en ai parlé à ma mère, voilà, bon, et ma mère me disait, dis donc, qui est Miss, on ne disait pas qui est Miss, mais elle disait, bon, dis donc, qui est Miss, c'est vrai que t'es très en colère, t'es très 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 en colère, mais t'es quelqu'un de très joyeux, où est la joie? Au début, enfin, j'étais en début de vingtaine, enfin, milieu de vingtaine. Quand on est, enfin, en tout cas, mon expérience d'être militante, d'être voilà, d'être confrontée à la réalisation en fait de à quel point le monde est comment, il y a beaucoup de choses à changer, disons. On pense pas forcément tout de suite. Enfin, en tout cas, moi, je pensais pas tout de suite à la joie. Il y avait vraiment, voilà, comme je vous disais, cette idée de catharsis. Et donc, elle m'a un peu aiguillée aussi sur cette idée de, pas de résilience, parce que ce mot, il est beaucoup trop utilisé maintenant, mais de joie, en fait. L'idée de la joie, comment la joie, ça nous fait finalement survivre. Et de la même manière que... la poésie, en tout cas, ma pratique de la poésie, c'est axée sur cette idée de, comme je le disais tout à l'heure, de révolte, de catharsis, une poésie un peu pyromane, etc. La notion de la joie et du soin, c'est aussi, comment dire, ces notions que j'ai aussi voulu faire naître. Presque faire forcer à naître, hein, parce qu'on est dans un moment où j'ai absolument pas envie de penser à ce qui est de l'ordre du soin, de la joie, etc. Enfin, mais qui de plus en plus m'ont paru essentiels. Et je pense que cette question de la joie, que ce soit la joie militante ou de la joie tout court, c'est aussi des notions, c'est aussi des. Oui, enfin, je ne sais pas si j'appellerais ça des notions, mais c'est aussi des sentiments qui nous, enfin, en tout cas, qui, moi, dans cette expérience de cette année, m'ont été finalement dérobés. Parce que aussi, vu comme étant non essentiel. Alors, après, évidemment, on est dans un cadre de pandémie, voilà, donc on fait comme on peut, mais. On est obligé de s'arrêter et de se dire que la question de tout ce qui est de la joie et notamment des joies collectives, c'est des choses qui n'ont, et à la fois de la joie et aussi de la résistance collective, c'est des questions qui nous ont été un peu dérobées par cette période. Et dans le recueil, j'ai aussi voulu, à la suite de ces conversations-là avec ma mère, les faire transparaître. Parce que c'était aussi des choses que je n'avais pas finalement, je les avais pas rencontrées en fait finalement dans mon parcours en fait tout simplement, hein. L'expression de joie collective et de joie à travers la résistance, c'est pas des choses que j'avais forcément rencontrées. Et c'est des choses que j'avais rencontrées dans mon militantisme aussi. Donc c'était quelque chose que je voulais transparaître. Et je pense qu'encore plus que la colère, ces notions-là, je ne pouvais pas les... Enfin, je ne vais pas parler en négatif, je vais plus dire que la poésie était l'endroit idéal pour les voir éclore, pour les voir se dessiner et pour les voir se transmettre. Je vois qu'il est 9h31, donc je vais peut-être...
Bah, merci beaucoup pour...
Je veux juste finir.
Oui, bien sûr.
Parce que j'ai juste une dernière partie, je pense que c'est essentiel. L'expérience de la poésie pour moi, l'expérience de la rencontre avec des poétesses, c'était une expérience qui est quand même loin de ce qu'on peut appeler... une expérience de connaissance des classiques, vraiment je mets des guillemets. Et je pense que j'ai eu du mal à la légitimer, j'ai encore du mal, c'est encore un travail en cours, mais c'est aussi ce qui et intéressant avec cette rencontre, en fait, finalement, avec ces poétesses, c'est de voir que il y a une volonté de considérer que d'autres références sont aussi légitimes, d'autres traditions sont aussi légitimes, d'autres influences, d'autres références en termes de thèmes, et une autre bibliographie, en fait. La poésie dite sociale, la poésie un peu pyromane, c'est aussi une poésie qui va vers les marges, ou qui naît, c'est même pas va vers les marges, c'est qui naît aux marges, et en naissant aux marges, elle permet aussi la description, la traduction et l'invention d'autres histoires, en fait, finalement. En naissant en marge, cette poésie sociale, en naissant dans des corps qui sont parfois vus comme étant révoltants, mais quand je dis révoltant, c'est vraiment révoltant de la part du regard de la norme, j'ai envie de dire, c'est aussi une poésie qui peut être dérangeante. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est une poésie qui gratte, c'est une poésie qui est énervée, c'est une poésie qui peut saouler, c'est une poésie qu'on peut considérer, voilà, qu'on essaye de rabaisser ou pas, mais c'est en tout cas une poésie qui ne laisse pas indifférent. Et je pense que cette poésie-là, c'est celle qui me fait le plus vibrer et c'est celle dans laquelle je me reconnais le plus. Et finalement, dans le monde extérieur, vraiment, quand on parle de poésie, on a l'impression que c'est un art mort, en fait. Enfin, c'est un art mort. C'est un art écrit dans une langue morte, on va dire plutôt. Et dans ce contexte-là, une poésie qui ne laisse pas indifférent, est-ce que ce n'est pas justement... j'ai envie de dire, c'est un peu jackpot. C'est un peu ce qu'on veut. Donc, c'est comme ça que je vois mon art et voilà.
Ben merci beaucoup pour ce partage et pour ces mots extrêmement précieux, extrêmement importants. Et merci aussi dans ce contexte de rappeler le caractère essentiel, nécessaire, salvateur de la poésie. Je pense que l'image de la poétesse et de la poésie en général pyromane qui embrase nos imaginaires, ça nous inspire toutes. Donc voilà, merci beaucoup pour ça et puis aussi pour ce feu qui entremêle colère et joie. En ce moment, c'est vraiment des choses particulièrement importantes. On a une première question du public. Que je vais lire, sauf si, Elvina, tu veux la dire de vive voix.
Oui, je peux, je peux, mais j'ai un voisin qui passe furieusement l'aspirateur, donc désolée s'il y a un bruit parasite derrière. Alors, merci beaucoup, Kiemi, c'était vraiment passionnant et ça faisait plein de rebonds avec des choses qu'on a entendues dans les journées précédentes et justement... Élodie Petit, la poétesse Élodie Petit, disait hier qu'il n'y avait pas de culture de poésie en France, au sens où les lectures et les performances sont très peu développées. Mmh. Ou en tout cas, quand elles existent, c'est des espaces qu'on peut dire réservés, quoi. En tout cas, marqués par un certain élitisme, un entre-soi. Et du coup, je me demandais comment est-ce que vous envisagiez la question du cadre, l'endroit où, enfin, l'espace où vos textes circulent, où ils sont dits, prononcés, où est-ce que les endroits où vous performez, où vous êtes lus, où vous lisez vous-même, est-ce que c'est un cadre que vous pensez, quoi ? Voilà, c'était ma question.
Je trouve que c'est très intéressant. C'est vrai que je l'avais mentionné dans ma présentation, mais je me suis laissée déborder par autre chose, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est très intéressant parce que il y a toute une discussion en ce moment sur la question de la poésie sur les réseaux sociaux, les poétesses qui viennent des réseaux sociaux, etc. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense qu'effectivement, de ma part, il y a eu, parce qu'il y avait ce sentiment d'illégitimité, etc., une facilité à aller vers les marges, et les marges, c'est aussi Internet. enfin les marches c'est aussi Internet, non maintenant Internet fait partie de nos vies, mais c'est aussi un espace où je pense qu'il y a une idée où c'est plus simple, c'est plus simple pourquoi ? Parce que c'est au bord de nos doigts, mais ceci plus simple parce que je pense que, en tout cas je vais parler peut-être pour moi, il y a une idée de on ne va pas se confronter au rejet de ce qu'on pense être la poésie institutionnelle, je pense. Et donc, du coup, il y a eu d'abord, effectivement, une publication, alors pas tant sur les réseaux sociaux, d'abord, c'était vraiment sur Internet, c'est-à-dire sur mon blog, etc. Et je pense qu'il y a un peu... je pense qu'il y a une pratique de la poésie qui est vraiment différente, parce qu'on la lit pas... Enfin, si, on peut la lire, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on peut se montrer devant les réseaux sociaux, mais je veux dire, il y a une pratique parce que l'échange, il est différent, on n'est pas face à d'autres personnes, il n'y a pas forcément de regard, et au début, peut-être une tentative d'éviter un peu, justement, certains regards qu'on considère, enfin, dont le rejet nous paraît briser toute notre confiance en nous, quoi. Moi, la pratique de ma poésie, c'est vrai que je l'ai lue, mais... finalement, l'idée, enfin, moi, je me voyais d'abord comme une écrivaine, je pense. C'est-à-dire quelqu'un qui écrit, travailleuse de l'écrit. J'avais vu ça quelque part. Enfin, j'avais lu, enfin, j'avais entendu, je crois que c'était Mia Brion d'ailleurs qui avait dit ça, qui était travailleuse de l'écrit et ça m'a vraiment parlé. Parce que voilà, c'est quelque chose où je je pense que porter sa poésie, ça, c'est aussi important que la produire en fait. C'est-à-dire la porter dans son corps, pour moi, c'est important, évidemment, mais ça demande un effort encore plus grand que de la produire et de la proposer. Maintenant, c'est une pratique que j'essaie aussi d'alimenter parce qu'il y a un besoin, finalement, de contact, en fait, avec les autres, limite avec... Enfin, pas forcément juste avec le public, mais avec les autres poétesses. Je crois qu'il y a un truc pour moi qui... et ce contact-là, il est beaucoup plus simple, je pense, dans des espaces, je vais dire réels, mais Internet, pour moi, c'est pas pas réel, mais c'est-à-dire physique, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui m'incite beaucoup plus à aller lire de la poésie. Mais c'est plus pour retrouver, c'est plus l'expérience du collectif, en fait, de la création collective qui m'incite à aller, qui m'inciterait, en fait, à aller proposer m'incite à proposer mes textes, plus que la performance poétique, parce que moi, je pense que je suis vraiment quelqu'un de, ouais, travailleuse de l'écrit. Et je sais aussi pourquoi, parce que quand tu travailles l'écrit, en général, en tout cas pour moi, t'évites les regards au moins pendant un temps. Après, tu vas proposer ton travail, etc. Mais c'est différé. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond trop à la question, mais voilà, je pense qu'il y a une question d'aller aller voir des espaces qui sont vus comme étant plutôt marginaux, même si ça tend à changer un petit peu. Pour éviter un certain rejet, peut-être intériorisé ou pas d'ailleurs, anticipation du rejet qui est intériorisé ou pas. Et puis ensuite, aller vers, entre guillemets, se confronter à l'extérieur fort de cette expérience.
Merci beaucoup. Sur YouTube, Eva écrit qu'elle n'a pas de questions, mais qu'elle veut juste vous remercier pour ce poème et pour tout ce que vous venez de dire. Et Lucille, tu as une question, je crois.
Oui, j'avais une petite question, en fait, à laquelle... Enfin, il y a certaines choses qui viennent d'être dites qui font beaucoup écho à ce que j'allais dire. Dans le prolongement aussi de la question d'Elvina, c'est... je suis d'accord sur le fait que ce que tu dis, ça rappelle beaucoup l'intervention qu'on a eue hier de Élodie Petit, avec qui on discutait justement de ces espaces, des marges, en fait, de la littérature, etc. Et... moi, j'entends un peu le même écho dans la keynote sur le lien entre la reconnaissance des corps, la joie militante et l'importance de faire collectif, quoi. Et je me demandais, en fait, en écoutant ce que tu disais, si le fait de... Enfin, je pensais à cette histoire de joie militante aussi, parce que donc il y a un livre qui vient de sortir sur ces questions-là. C'est un peu discuté en ce moment aussi, le fait de revaloriser cet aspect-là. Et je me disais, c'est aussi une manière, en fait, de contrer le côté, la gravité, le côté individuel, etc., des espaces plus institutionnels, peut-être, de la poésie, quoi. Enfin, en tout cas, c'est une manière de mettre en valeur, une autre manière de faire collectif, quoi, le fait de mettre l'accent sur la joie plutôt que sur voilà, une forme de solennité, peut-être, qui est appesantie, je ne sais pas.
Alors, après, de toute façon, c'est vrai, ce que tu dis, ça me fait penser à une intervention que j'ai eue dans un espace, d'ailleurs, qui n'est pas du tout institutionnel, qui est vraiment l'inverse de l'institution, où j'ai pu réciter mes textes. C'était pendant le cabaret de Poussière. Donc, c'est un cabaret qui est mené par Martin Poussière. Et pendant cette intervention, donc il y a eu, j'ai un texte qui s'appelle Célébration. Enfin, en tout cas, je l'ai appelé Célébration. Après, il a changé de titre, mais dans ma tête, ce poème, il s'appelle Célébration. Et justement, j'étais accompagnée de, j'étais accompagnée. Enfin, dans le poème Célébration, c'est une description d'une fête. Et de ce que c'est en fait la fête comme espace, et je pense que ça c'est vraiment quelque chose des espaces subalternes c'est-à-dire la fête comme espace de révolte, de résilience, de soins mal soignés, enfin voilà, des soins pas vraiment soins un espace un peu presque thérapeutique, mais bon, il n'y a pas vraiment de protocole, donc pendant cette performance, pendant cette lecture, en fait, derrière, il y avait de la musique. Et j'avais, pour moi, c'était important, en fait, de faire de la musique, enfin, que la musique qui soit derrière soit une musique extrêmement entraînante, influencée par des sonorités de musique d'Afrique centrale. Donc, extrêmement entraînante, extrêmement joyeuse. Et c'est vrai que l'idée que je me fais des représentations... de poésie, c'est un peu totalement à l'inverse. Enfin, c'est pas l'idée que je m'en fais, en fait, mais finalement, c'est ce que moi j'ai proposé. Et je pense que. Je vais quand même le souligner, y a eu cette expérience-là pour moi, mais il y a une autre expérience de lecture de texte qui a été proposée par. Littérature, etc., qui a participé, je crois, hier. Et j'ai eu cette expérience aussi du coup, c'était des lectures de textes proposés par des poétesses. Et pareil, en fait, j'ai eu cette sensation de joie. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a tout à fait sa place. Oui, qui a tout à fait sa place dans le monde poétique. Et c'est quelque chose que je pense que c'est pas forcément la responsabilité de toutes les personnes qui sont issues, je pense de catégories marginalisées, etc. Hein, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que moi c'est un souffle que j'ai envie d'amener, cette joie, cette célébration, cette capacité à la célébration que peut nous proposer la poésie, et je pense qu'elle nous propose dans beaucoup d'aspects, en fait, finalement. Et ça la rend, je pense que ça la revigore, enfin la revigore, elle n'a pas besoin d'être revigorée, mais parfois un peu quand même. et ça lui donne du souffle, et ça lui donne de la vie. Et je pense que c'est quelque chose que moi j'ai envie de proposer, parce que voilà. Et parce que je pense que voilà, encore une fois, la fête sur beaucoup d'aspects, c'est en tout cas la fête et la joie et le fait de se célébrer, ça a une importance capitale en termes d'état psychique. Enfin, même on le voit maintenant, je veux dire, on n'est même pas obligé de faire partie d'une catégorie marginalisée, mais je pense encore plus dans ces situations de retrouvailles, de collectifs, etc. Et je pense que vraiment la poésie, c'est pareil, en fait. Moi, pour moi, c'est comme je le disais, pour moi, ça a été une catharsis d'écrire de la poésie. C'était presque thérapeutique, en fait, d'écrire cette poésie-là. Pourquoi on ne peut pas lier les deux ?
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'ai envie d'en poser plein, mais je sais que le temps file et je ne sais pas si... Ouais. Bon, j'avais juste une dernière question avant la pause. Dans le texte que vous avez lu au début, il y avait la phrase « Ses doigts se murent dans le silence ». Et ça pose la question aussi du rapport au corps et puis aussi tout ce travail sur la joie collective. Il y a cette question des corps en mouvement, des corps mm-hmm. vivants qui se posent. Et donc voilà, je voulais savoir comment est-ce que cette incarnation de la poésie, elle vous occupe ?
Alors, je dirais la poésie, après, je prends cette question en disant la poésie, peut-être l'écriture en général. C'est intéressant déjà parce que pendant mon atelier d'écriture, je disais l'écriture, c'est un mouvement. Je crois que je l'ai même entendu de pas mal d'auteurs et d'autrices. Que je ne pourrais pas citer là précisément, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu et qui m'a énormément parlé. L'écriture, c'est un mouvement. Et par là, ça veut aussi dire qu'il y a une désacralisation de l'idée de l'écrivain qui est subitement inspiré. C'était vraiment pour aussi dire que c'est un mouvement, dans le sens, c'est un muscle, en fait, qu'il faut l'entraîner, qu'il y a du travail, que voilà. Et que du coup, c'est à notre portée aussi. Si c'est un mouvement, c'est-à-dire qu'on peut s'entraîner, qu'on peut le faire mieux, etc. Et c'est vrai que pour moi, quand on est en mouvement, on est en vie, en fait. Enfin, c'est peut-être très basique ce que je dis, mais c'est vrai. et c'est aussi ce que me dit l'écriture, en fait. Je crois que c'est un truc... Vraiment, c'est quelque chose que... Comment dire, je peux faire qu'une chose. En fait, je sais faire une chose. Parfois, il y a des gens qui ont plein de talents, et tant mieux pour eux. Moi, je sais faire une chose, c'est écrire. Et c'est intimement lié à ce que je suis, en fait. Presque. C'est vraiment lié à mon... Enfin, pas lié à mon identité, mais je sais pas faire autre chose. Donc, et quand j'écris pas, et ben, c'est pas bon. Donc, je sais que c'est pas une réponse très recherchée, mais c'est vrai que ça, j'ai vraiment un lien presque, pas ontologique, mais vraiment, ça fait partie de mon essence, en fait, d'écrire. Et souvent, ce qui sort, c'est la poésie, parce que, c'est... Je sais pas, il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est absolument pas... que c'est un genre qui est totalement inaccessible, et je pense que c'est vraiment la manière dont on l'apprend et qu'on l'incorpore. Mais la poésie, c'est tellement... si c'est tellement accessible, en fait, c'est presque comme si on chantait, en fait. C'est, pour moi, je l'entends comme comme un chant, en fait, en tête. Et c'est vrai que la musique, ça a aussi une très forte importance dans mon enfance, dans mon adolescence, etc. Et puis donc c'est moi, tout simplement. Enfin, je sais pas, une chose, c'est écrire. Et c'est synonyme de la vie, quoi. Donc c'est pour ça que c'était très brutal pour moi de dire tout à l'heure la poésie, c'est un armoire, parce que c'est tellement l'inverse pour moi que voilà. Et je pense que c'est notre rôle, en fait, finalement, de montrer toute sa vitalité, toute sa vie, en fait, finalement. Poetry is alive, bref.
Merci beaucoup, merci encore mille fois pour ce partage et cette keynote et ce temps d'échange. Merci.
Merci à vous de m'avoir invité, en tout cas.